Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Okapi Service, le magazine de la vie au quotidien. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour vous servir. Comment est-ce que l'université peut devenir un moteur de développement? On en parle aujourd'hui avec Monsieur l'abbé Chibaka Chikongo Apollinaire. Il est recteur de l'université officielle de Mbujimayi. Monsieur l'abbé Apollinaire Chibaka, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue dans cette émission de la vie au quotidien, au Capi Service. On vous retrouve dans quelques instants pour échanger autour du rôle de l'université dans le développement de la société. Dans la deuxième partie de cette émission, nous allons parler de l'impact de la gratuité de la maternité et des soins des nouveau-nés en République démocratique du Congo. Des questions et préoccupations, eh bien, composez les 099-706-9941. Écrivez-nous à service@radiookapi.net. Sylvain Baugueré assure la mise en onde de cette émission. Tati Mapoukou la réalise au micro. Jody Daniel Kachama, bienvenue à tous et excellente condition d'écoute du magazine de la vie au quotidien.
Pour participer à l'émission, appelez les 081 051 66 78 ou contactez-nous par par mail dec@radiookapi.net.
Bien, encore une fois, bienvenue dans cette émission de la vie au quotidien, au Capi Service. Nous allons parler aujourd'hui du rôle ce que l'université peut faire pour devenir un moteur de développement, pour contribuer au développement de la société. Vous savez, dans notre société, nous sommes confrontés à beaucoup de problèmes sociaux, économiques. Il y a la pollution, la criminalité, l'insalubrité, les embouteillages et beaucoup d'autres problèmes, la pauvreté, etc. Alors les universités ne sont pas là seulement pour produire des diplômes, sont des temples du savoir, pour aider à résoudre le problème de la société. Alors comment cela doit se faire? On va prendre les cas de l'université officielle de Mbujimayi. Nous avons en ligne Monsieur l'abbé Apollinaire Chibaka Chikongo, recteur de cette université. Monsieur l'abbé Chibaka, ravi de vous avoir aujourd'hui dans cette émission. Alors la première question est de savoir, pourquoi, que faut-il faire pour que l'université puisse devenir un moteur de développement? Allô?
Allô?
Oui, vous avez la parole.
Oui, je disais merci beaucoup pour l'invitation. Et on connaît tous les fonctions traditionnelles de l'université. La recherche scientifique, l'enseignement et le service social. Alors, quand on voit l'histoire des grandes nations, on sait que toutes elles se développent à l'ombre de l'université. Pourquoi? Parce que l'université forme l'homme et l'homme est la première ressource de la société, de la nation. Et là, donc, c'est du point de vue théorique. Mm-hmm. Maintenant, il faut voir dans chaque cas concret que doit faire l'université pour contribuer au développement de la société, à la solution des problèmes qui se posent à la société.
Bien, vous avez dit le rôle de l'université, c'est d'abord la recherche scientifique, l'enseignement et les services sociaux. Alors, pouvez-vous nous dire concrètement, parlons par exemple du cas de l'université officielle de Mbujimayi, pouvez-vous d'abord nous présenter cet établissement, quelles sont les différentes facultés que vous organisez et comment aujourd'hui cette université peut contribuer au développement du Kasaï? Parce que souvent, selon les informations reçues, le Kasaï n'est pas suffisamment développé, il y a beaucoup de problèmes, la pauvreté, etc. Comment est-ce que les produits de l'université officielle de Mbujimayi peuvent contribuer au développement de cette province?
Bon, écoutez, l'université officielle de Mbujimaï est née en 1993 à la suite des conflits dans l'ancien Chaba. Il avait amené plusieurs centaines de milliers de personnes à rentrer au Kasaï. Alors, parmi ces personnes qui se déplaçaient, il y avait des professeurs d'université, il y avait des chercheurs, il y avait des étudiants. C'est donc eux qui ont fondé cette université. Et donc, c'est une université qui est née dans des conditions particulières et qui a donc un cheminement particulier. Ce n'est pas une université, je peux dire, pensée, planifiée. C'est une université, je peux dire, improvisée et qui est en train de se construire. Alors, qu'est-ce qu'elle peut faire pour notre société? Je pense que la question ne concerne pas que le Kasaï ou Mbujimaï. C'est une question qui concerne toute l'université congolaise. Parce que les problèmes de l'université officielle de Mbujimaï, c'est aussi des problèmes de toutes les universités congolaises. Et on peut bien se demander si l'université congolaise en général est à la hauteur de la tâche. Je pense que la contribution de notre université, de l'université congolaise au développement du Congo, est une contribution pratiquement nulle. À cause de plusieurs facteurs. Et personnellement, comme recteur, j'y ai consacré une réflexion. Je pense qu'il y a 7 grands obstacles qui font que l'université congolaise, y compris l'université officielle de Mbujimaï, ne contribue pas de manière efficace au développement du pays. J'ai même publié un texte là-dessus dans les actes d'un colloque que j'ai intitulé « Les 7 péchés capitaux de l'université congolaise ».
Quels sont ces 7 péchés?
Alors, le premier péché, c'est ce qu'on peut appeler la démission de l'État, globalement. C'est vrai que l'État prend en charge l'université, mais les moyens que l'État met au service de l'université ne sont pas suffisants. Et beaucoup d'universités existent, mais n'ont même pas des infrastructures pour fonctionner. Par exemple, notre université est heureuse parce que d'ici 2-3 mois, nous allons nous installer dans de nouvelles infrastructures. Et donc, un peu globalement, on peut dire depuis 1960, il n'y a pas un investissement conséquent en la construction, l'édification, le fonctionnement des universités pour qu'elles soient à la hauteur de la tâche. Et il n'y a pas que ce côté, si je peux dire, financier, il y a aussi le côté, si je peux dire, politique, où à certains moments de l'histoire, l'université sort de l'apolitisme, elle est en quelque sorte politisée, et ça ne permet pas toujours qu'il y ait des espaces de liberté nécessaires qui s'imposent. Donc, ça c'est le premier problème. Le deuxième péché, c'est celui que j'appelle la crise du leadership managérial. Vous trouverez que beaucoup de nos universités ne sont pas gérés de manière rigoureuse et transparente. On pourra revenir sur les détails. D'accord. Le troisième problème, c'est celui que j'appelle le désordre administratif. Et partant de ma propre expérience ici, vous allez retrouver des universités, en fait, sans une administration, si je peux dire, professionnalisée. Où parfois il y a pléthore de personnel et qui ne sont pas à leur place. Par exemple, cette université, quand je l'ai prise, il y avait environ 900 employés. Et on a dû donc mettre à la porte près de 400. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui n'avaient rien à faire à l'université, en fait. Ou qui n'y faisaient rien, mais qui figuraient comme agents de l'université. Alors, le quatrième péché ou problème, c'est celui que j'appelle le charlatanisme académique, où l'enseignement assuré n'est pas toujours un enseignement de qualité. Où Par exemple, si vous prenez seulement le prorata, moi j'ai environ 10 000 étudiants et je n'ai que 52 professeurs d'université. Si vous faites la moyenne, vous verrez que c'est un professeur pour près de 300 étudiants, 250 par là. Donc, ce qui n'est pas normal.
Et normalement, il faut un professeur pour combien d'étudiants?
Dans des universités sérieuses, c'est un professeur pour 10 à 15 étudiants.
OK.
Donc, les universités, par exemple, une université de 20 000 étudiants doit avoir un nombre de professeurs. Parce que si un prof s'occupe de 250 étudiants qu'il doit accompagner, donc il n'est pas là autant. Et puis, il faut pas oublier que tous ces professeurs parcourent... Ils enseignent dans plusieurs universités à la fois. Donc, il est en Bujima, il est ailleurs, il est par-ci, par-là. Donc, ça fait que la qualité de l'enseignement, la qualité de la recherche n'est pas sérieuse. Alors, le cinquième problème pour moi qui bloque notre université, c'est l'analphabétisme étudiantin. C'est-à-dire beaucoup, la majorité de nos étudiants sont inaptes aux études universitaires. Et donc, je donne les statistiques, par exemple, chez moi. À la première session, vous avez 17% de réussite. Ce qui est grave, en fait. Et je pense que la moyenne, c'est un peu partout comme ça. Et donc, vous recevez des personnes, parfois, à l'université, qui ne savent ni lire ni écrire, mais qui tiennent à être à l'université parce qu'ils ont un diplôme. Donc là, c'est un problème sérieux. Alors... Le sixième problème, c'est pour moi le manque d'appropriation individuelle et sociale de nos universités. Ailleurs, vous avez de la générosité à l'égard des universités. Vous visitez une université, c'est pas en Europe ou au Canada, vous trouverez qu'il y a des mécènes, il y a des gens qui financent le fonctionnement de l'université, il y a des entreprises qui le font. Ici, chez nous, c'est rare, en fait, qu'on trouve des personnes généreuses qui appuient l'université, pas seulement l'État. Ailleurs, l'université, c'est pas seulement un problème de l'État, c'est un problème de toute la société. Et les grosses fortunes investissent dans les universités. Et le dernier péché qui bloque l'université, c'est la violence des mœurs. Nos universités... C'est des espaces où il y a beaucoup de violence, violence verbale, violence physique, violence des mœurs. Et donc, vous n'avez pas, alors, tout ça, ça fait sept péchés capitaux qui, à mon sens, bloquent notre université et ne lui permet pas d'être à la hauteur de sa tâche dans la société. Alors, ça devient une machine à produire des diplômés qui ne servent à rien ou, Voilà un peu la situation. Donc, à partir de ces situations, peut-être c'est schématique. Je parle à partir de mon expérience. Et alors, à partir de là, on peut voir quoi.
D'accord. Voilà. Donc, ce sont là les sept péchés qui empêchent l'université congolaise de jouer son rôle. Alors, normalement, qu'est-ce que l'université, comment est-ce que l'université pouvait peut si, par exemple, tous ces péchés ne sont pas là et que l'université a tout ce qu'il faut, comment est-ce qu'il peut contribuer au développement de la société? Quel genre de problème l'université peut résoudre?
Disons, la première chose, c'est la recherche scientifique dans tous les domaines. C'est-à-dire chercher à répondre aux questions que les personnes se posent. Nous avons, par exemple, dans notre pays, un problème d'alimentation. On est un pays... a beaucoup de ressources agricoles, donc on a des potentialités pour nourrir toute l'Afrique, mais nous continuons à importer ce que nous mangeons. Nous importons du maïs, nous importons du poisson, alors que des poissons meurent de vieillesse dans nos rivières et dans nos lacs. Et donc on a un problème d'alimentation. Et nous avons des facultés de sciences agronomiques. Nous avons des INERA, de ceci, de cela. Qu'est-ce que toutes ces institutions font pour qu'on parvienne à la souveraineté alimentaire? Et donc, une université compétente devrait donc former des gens aptes à aborder ces questions-là, à s'investir et à promouvoir cela. Quand vous comparez avec les Belges, la colonisation, le Congo était autosuffisant du point de vue alimentaire. on n'avait pas autant de professeurs de sciences agronomiques, on n'avait pas autant d'ingénieurs agronomes. Et là, quelque chose ne va pas. Pourquoi? Parce que probablement, il faut remettre en question la formation qui est qu'ont tous ces ingénieurs, parce que elle ne fait pas de transformateurs de sociétés. Et il se pose donc tous ces problèmes-là. Donc, l'université devait être sur ces champs-là, occuper les champs économiques. C'est pas moi des inondations à Kinshasa et tout ça. C'est pas des problèmes mystérieux. C'est des problèmes d'urbanisation. C'est des problèmes d'entretien de pays. Et là, ça pose des problèmes. Vous voyez, là, quand on doit construire des routes, on fait appel à qui? Aux Chinois. Quand on doit faire ceci, on fait appel à qui? À des compétences étrangères. Donc, notre université doit, si elle est à la hauteur de sa tâche, donc c'est une université qui s'interroge sur les problèmes de société, qui forme les personnes à la hauteur de ces problèmes de société pour les résoudre. Or, et la formation telle qu'elle est donnée dans ces conditions-ci, vous produisez des ingénieurs qui n'ont d'ingénieurs que les diplômes, que les titres, que les papiers. Et ils ne peuvent rien apporter à la société. En fait, l'université congolaise n'a pas encore produit ce qu'on peut appeler une masse critique qui peut provoquer une révolution sociale, un mouvement social. Je donne un exemple. Vous voyez, nous sommes totalement dépendants. Le savon que nous utilisons, le ceci, parfois, nous on se plaint, le savon, c'est pas moi, hydroquinone. Est-ce que nous avons des chimistes congolais capables de nous offrir un savon adapté à notre peau, au lieu de ces savons toxiques qui détruisent notre... Donc, c'est toutes ces questions-là que l'université doit aborder et essayer de résoudre. Donc, dans tous les champs, en fait, l'université a la mission de former l'homme comme ressource première de son pays. Donc, la première ressource de ce pays, c'est pas le coltan, c'est pas le cuivre, c'est pas le diamant, c'est pas l'or. La première ressource, c'est l'homme. Et notre pays a des problèmes, non pas parce que nous avons trop de minéraux, notre pays a des problèmes parce qu'on n'a pas des hommes formés pour faire que ces ressources soient au service du pays.
D'accord. Je reviens à vous le temps d'accueillir les auditeurs. Nous parlons qu'est-ce qu'il faut faire pour que l'université congolaise devienne un moteur de développement, contribue au développement de la société. Malonga, vous êtes à Bandundouville et Justin Koulou à Lubumbashi. Malonga, bonjour et quelle est votre préoccupation?
Moi, je suis...
Oui, on vous écoute.
Ok, merci beaucoup. En tout cas, le sujet d'aujourd'hui, ça fait honte pour nous. Vous voyez l'invité, enfin, en tout cas, je le félicite, puisque il dénonce tout. Il dénonce tout. L'université, pour moi, je vois que c'est un grand centre de formation. On étudie, ce n'est pas pour venir... pour devenir francophone, parler bien le français, parler bien l'anglais, ou bien c'est fait comme ça, voyager, c'est cela. Non, on étudie pour venir à notre tour former et édifier notre milieu, notre société pour le développement. C'est ça. Et c'est à l'université qu'on doit apprendre ça. Et qui doit nous apprendre ça? Ce sont les formateurs qui sont là. Les assistants, les chefs de travaux, les professeurs. Mais aujourd'hui, je me demande, aujourd'hui, peut-être vous aussi, vous pouvez me demander ensemble, vous pouvez vous demander ensemble avec moi, que font les recteurs lors de la défense de leurs étudiants? Puisque nous assistons, moi j'ai étudié, j'ai terminé ici à l'Unikin. Vous verrez que le cas des étudiants qui vient défendre donc le dernier moment de sa vie universitaire pour commencer à produire quelque chose de bon dans la société. Mais vous verrez ce qu'il va faire, ce qu'il va, il va prononcer. Le recteur sera là, les professeurs sont là, le CET et tout ça. Et ils ont ils vont sanctionner que la satisfaction, grande satisfaction. Bon, je me demande, c'est quoi ça? Bon, ainsi va la vie. Mais c'est ça, la mort de la nation.
Alors, quelle est la question que vous avez adressée à M. le recteur?
Doit être comme le directeur des études. Vous voyez que font le directeur des études ici à l'école primaire? Chaque fois, vous verrez un directeur, il circule les classes, il visite les classes, ils sont ensemble avec leurs enseignants pour chercher comment est-ce qu'appliquer la méthodologie pour former les élèves. Mais les recteurs qui sont aujourd'hui dans nos universités, je dis, oui, je parle sur les suivants, mes remarques, ils ne se soucient pas des étudiants. Ils sont là seulement pour les frais académiques, pour tout ça, pour tout ça, pour tout ça. Le gouvernement, dans des temps passés, a défendu de ne pas produire les syllabus. Mais aujourd'hui, demander quelle université qui a obéi à ça.
Quelle est la question que vous adressez à M. le recteur? Oui, M. Malonga, quelle est la question? Allez droit au but, quelle est la question?
Qu'est-ce que nous entendons de ces universités-là? Les étudiants vont sortir seulement comme ça. Ils n'ont pas besoin d'étudier, ils n'ont pas besoin de mettre en pratique ce qui suivent là-bas. Or, les professeurs ou bien les assistants, ou bien les CT, ils enseignent. Est-ce que réellement, ils font le suivi de ce qu'ils enseignent là-bas? Ils évaluent les étudiants. Vous voyez là où il y a tant de questions pour édifier notre société.
D'accord, merci.
Je ne sais pas. Le gouvernement laisse comme ça. Ici aussi, le gouvernement des universités se laisse comme ça. Vous voyez comment est-ce que je me répète encore pour dire que nos 9 voisins profitent à ce désordre-là. Raison pour laquelle nous sommes infiltrés, et puis les outils, et ils font ce qu'ils sont en train de faire.
Merci beaucoup, Malonga. Merci, Malonga de Bandounouville. On va donner la parole à Justin Koulou de Lubumbashi. Bonjour. Bonjour, Justin.
N'ont pas bien maîtrisé les études prouvées aujourd'hui.
D'où allô? Allô? Justin Koulou, vous êtes à Lubumbashi, bonjour. Allô? Justin Koulou n'est plus là. Bon, monsieur l'abbé, vous avez suivi la préoccupation de Malonga.
Oui, j'ai suivi Malonga de Bandundu et les différentes préoccupations.
Oui.
Écoutez, le problème est là. Il faut trouver des solutions. Alors, il a évoqué la question des syllabus. Je peux le rassurer que à l'université officielle de Mbujimayi, depuis 2021, on ne vend pas des syllabus. Je suppose que il y a d'autres universités où ça se fait. Mais en tout cas, dans notre université, ça fait 4 ans où ça ne se vend pas. Alors, le problème qu'il pose, c'est le deuxième péché dont j'ai parlé, la crise du leadership managérial. Donc, il faut gérer. Ça va? Alors, cela signifie une certaine discipline dans la gestion des enseignements, que les enseignements ne soient pas assurés par des amateurs, que ce soit assuré par de spécialistes. Mais il y a aussi le problème des qualités et tout ça, des infrastructures qui dépendent de plusieurs facteurs. Alors, si tout dépendait de moi, la première chose, c'est supprimer tous les établissements non viables. Et ça pullule au Congo. Et chaque ministre qui est venu en a supprimé. Et puis après, ça ressuscite. Et c'est étonnant, vous allez dans des villages, vous trouvez... on vous apprend que là, c'est une université. Et ils sont peut-être à la cure. J'étais dans une paroisse, je suis prêtre, j'étais dans une paroisse. J'étais surpris de trouver un jeune prêtre qui a été mon étudiant. Il était secrétaire général académique d'une université. Il s'appelait Université Technologique de Kalambaye. Alors, il était là. Moi, j'ai dit, mais monsieur l'abbé, vous n'êtes pas univers, disons, en dehors de la philo et la théologie au grand séminaire, vous n'êtes pas, mais vous gérez tout un établissement qui décerne des diplômes et tout ça. Et c'est de l'aventure. Donc là, ça existe. Il faut supprimer tous les établissements anarchiques qui existent et non viables. Je pense qu'il faut élitiser l'universitaire. Notre université est devenue une université de masse. Et là, peut-être des jeunes qui ne savent que faire de leur vie, tout le monde vient s'entasser à l'université en attendant. Et donc, il faut donc des critères de sélection rigoureuses. Alors, ça signifie peut-être réinstaurer la propédeutique partout. Parce que le problème, c'est pas seulement l'université, c'est notre école primaire, c'est notre école secondaire. Je vous ai dit que nous recevons beaucoup d'étudiants qui ne savent ni lire ni écrire. Alors, s'ils veulent aller à l'université, une propédeutique obligatoire où ils apprennent à lire et à écrire et avoir de la culture générale. Alors, il a évoqué la question des frais académiques. Effectivement, beaucoup d'universités pour fonctionner dépendent des frais que les étudiants donnent. Alors, plus vous avez des étudiants, plus vous avez les moyens de fonctionner. Mais si l'État pouvait rendre les universités indépendantes des frais académiques, les universités auraient les moyens de former peu d'étudiants, mais de disposer des moyens de mieux les former. Donc aujourd'hui, ça fait que si j'ai 6000 étudiants, mon institution est viable. Celui qui en a 200, son institution est non viable. Donc il n'y a pas que des solutions à trouver au niveau de l'université, il y a des solutions à trouver au niveau du gouvernement. Donc élitiser, sélectionner et donner les moyens à l'université. Et pour changer, je pense qu'il faut des recteurs, des gestionnaires rigoureux, qui impose la discipline, qui écarte de l'université les gens qui ne sont pas faits pour l'université. Et puis qu'on crée d'autres écoles, peut-être supérieures, de métiers ou de je ne sais pas quoi. Parce que là, par exemple, moi, j'ai une faculté, je ne sais pas moi, de droit, où vous avez pas 1500 étudiants. Vous avez une faculté de médecine, c'est pas 3000 étudiants. Donc tout ça, ça pose des problèmes, parce qu'on n'a pas que des problèmes de justice, de santé à résoudre, il y a d'autres problèmes qu'il faut résoudre. Par exemple, en sociologie, je n'ai que 5 étudiants, toute la faculté. Donc il y a toute une planification qu'il va falloir envisager pour sauver cette université. Mais c'est vraiment pour moi une question prioritaire.
D'accord. D'accord. On va accueillir Justin Koulou de Lubumbashi. Comment est-ce que l'université peut contribuer au développement de la société, devenir un moteur de développement de la société? Justin Koulou, bonjour et quelle est votre question?
Bonjour, monsieur Jody, et je dis bonjour à tous les auditeurs de la radio Capi. Et enfin, je dis bonjour à notre invité qui est au studio, à qui je dois m'adresser verticalement.
Quelle est la question?
Ok. J'espère parmi vous, il y a celui qui a l'enfant en Europe pour les études. Si pas en Europe, en Asie, je sais pas, en Australie. Et on n'en parle même pas pour nos autorités, nos dirigeants. L'air d'habitude étudie ailleurs. Et ces gens reviennent au Congo pour apporter quoi? J'ai écouté notre invité, il a dit 6000 étudiants. Si nous faisons bien l'inventaire, nous pouvons atteindre les 6000 étudiants ailleurs. Est-ce que à la fin de ces gens, à la fin des études de ces gens, au Congo, ils ont déjà apporté quoi? Puisque c'est depuis la période de Mobutu, la période de Kabila, Joseph Kabila, et même actuellement, nos autorités envoient les gens ailleurs. Il y a des bourses, il y a de quoi? Qu'est-ce qu'ils ont déjà apporté au Congo comme changement? Nous avons de sérieux problèmes, monsieur Jody. Nous, les Congolais, c'est la pauvreté. Nous voyons beaucoup la subjectivité. Si quelqu'un va essayer de faire inscrire à l'université, c'est pour son intérêt propre. Quand on l'engage, il est dans son bureau, il pense qu'au salaire, il ne pense pas à développer les secteurs auxquels il est commis. Si nous prenons l'exemple, le pilier primordial dans notre pays, c'est l'agriculture. Vous voyez les ITA dans notre pays. Je vous donne l'exemple de notre territoire de Bukama, secteur.
Allô? Allô?
Il n'y a pas des institutions techniques pour le secteur, pour le territoire. Il n'y a pas l'institution technique agricole. Comment ces enfants vont se développer ce pays? Ils cherchent seulement à être dans des bureaux comme un magistrat, comme un docteur.
Alors, je pense qu'il y a des soucis par rapport à la...
Tu seras...
Alors, passez rapidement à la question. Quelle est la question que vous adressez à monsieur le recteur Apollinaire?
Ok. Est-ce que monsieur le recteur, il connaît que nous avons tout dans notre tête? Ce qui manque, c'est l'accompagnement. Il n'y a pas des usines, on peut terminer.
Justin Koulou, mais chaque année, par exemple, il y a des étudiants qui défendent les travaux des fins de cycle, les mémoires. Il y a des chercheurs qui travaillent à gauche, à droite. Mais pourquoi toutes ces recherches ne peuvent pas aider à contribuer au développement de la société? On a vu, par exemple, aux États-Unis, des étudiants qui ont créé, Microsoft Word, tout ça, et d'autres qui ont créé des applications. Et ils peuvent créer des choses pour résoudre le problème des embouteillages, l'insalubrité, etc. Merci. Bon, c'est pas à vous de répondre à la question. Monsieur l'abbé Apollinaire Chibaka, vous avez la parole.
Oui, allô?
Oui, vous avez la parole, monsieur l'abbé.
Ok, très bien. Je pense que les questions qui sont posées ou les plaintes qui sont présentées partent d'un fait, c'est-à-dire on a une université qui est généralement une fausse université. Dans le texte dont je vous ai parlé sur les 7 péchés capitaux de l'université congolaise, ma proposition est simple. Il faut réoccidentaliser l'université congolaise. Nous l'avons en quelque sorte trop africanisée. Et on l'a africanisée autour de ces 7 péchés. Alors, ce qu'il faut faire, c'est réoccidentaliser, reconstruire cette université dans la fidélité à la tradition universitaire occidentale. Nos universités ne ressemblent pas à l'université. Quand on a fait l'expérience d'une autre université, quand on sait ce que c'est qu'une université, alors on comprend que ici nous sommes en train de blaguer en fait. Et alors là, vous avez, comme je l'ai dit, que fait l'État pour l'université? Donc l'université doit être une priorité. Donc l'école, l'université doivent être des priorités parce que c'est là que se trouve la ressource première de la nation, d'une nation. Elle est là, c'est là qu'on la forme. Donc il faut mettre des moyens conséquents. Alors dans les choix des gestionnaires, il faut que les gestionnaires soient des personnes qui vont là-bas, non pas pour leurs intérêts personnels, mais pour servir la nation. Et donc, il faut un style de gestion. Et si, quand ce style manque, on y est pour autre chose. Alors, il faut avoir une administration universitaire solide. Parce que vous avez beaucoup de gens dans nos universités ne sont pas à leur place. On y arrive parce qu'on est peut-être neveu de tel ou tel, mais on n'est pas à sa place. Donc il faut, si je peux dire, purifier, envoyer beaucoup de gens ailleurs.
Alors, monsieur, oui, monsieur le recteur, comme je le disais tout à l'heure, chaque année, vos étudiants produisent des travaux de fin de cycle, les mémoires, tout ça. Il y a des recherches qui se font. Mais pourquoi cela n'aide pas la société à se développer?
C'est-à-dire, non, écoutez, la plupart des travaux qui sont faits, n'ont aucune qualité. Je vous dis d'abord, un, si vous avez un professeur qui lui a seul dirige 100 FC par an, quelle est la qualité qu'il y a? Est-ce que ces étudiants ont accès à des bibliothèques fournies? Est-ce qu'ils ont des laboratoires? Souvent, c'est du plagiat. Alors, nous venons dans notre université d'instaurer à partir de cette année un contrôle systématique des plagiats. Vous avez des gens qui sont formés, mais dans quelles conditions? Ça va. Donc, le problème, c'est pas il a produit un mémoire, mais c'est quoi? Qu'est-ce qu'il a produit? Peut-être que plus de 90% de TFC qui sont faits dans ce pays, c'est des taxes qui ne servent à rien, en fait. Donc, nous devons vraiment faire une autocritique profonde.
Professeur,
les personnes mal formées ne peuvent pas être utiles à leur pays. Ce sont des parasites. Ils vont détruire le pays.
Donc, on peut dire qu'aujourd'hui, l'université n'est pas à mesure, par exemple.
Il y a quelques individualités exceptionnelles qui sont produites par l'université congolaise. Oui. Mais la majorité des diplômés de nos universités, c'est des personnes qui ne servent à rien à la société.
Bien, on va accueillir d'autres auditeurs. Ismaël Mumpoy de Lubumbashi et Maître Omar Kigalo de Kinshasa. Ismaël Mumpoy, bonjour.
Oui, bonjour à
Bien, quelle est la question que vous adressez à Monsieur le Recteur?
Je pense que le Monsieur le Recteur est parmi les gens que nous connaissons dans ce pays. Mais entendre ce qu'il dit et ce qu'il fait. Ben, s'il doute un peu d'autres professeurs ou l'engouement des étudiants à l'université, où il évoque le bâtiment, tout ça. Est-ce que le bâtiment fait faire un peu un bagage intellectuel d'un étudiant? C'est la première question. Bon, lui en soi, je sais même que pas que c'est à mesure même d'envoyer mes enfants chez lui, dans son école. Cela n'est pas, n'exclut pas que dans d'autres écoles, on n'enseigne pas ou les étudiants n'apprennent pas. Je vous donne mon exemple. J'ai vu que présentement, nous avons beaucoup de difficultés en santé publique, plus en épidémiologie. Je me suis décidé de laisser ce que j'avais fait en vue d'aller faire l'épidémiologie. Pourquoi j'ai dit ça? C'est parce que ma conscience m'interpelle pour combler certaines choses que nous avons. Nous avons des cholérans, nous avons de la fièvre typhoïde. Il y a beaucoup de maladies qui affectent l'environnement. Pensez-vous que même si je serais dirigé par, on serait dirigé 500 par un seul professeur, je vais lâcher mon objectif? Les conséquences que nous avons aujourd'hui, c'est parce que nous avons les enfants de tel, quand ils partent à l'université, la connaissance, l'argent, fait ces gens-là des titres académiques. Mais les enfants de pauvres qui parfois passent à la deuxième session, vous verrez que ces enfants-là sont dynamiques comme moi. Moi, je fais la gynécologie.
Ismaël,
je sais ce que je fais. Et Ismaël, ce que je fais ne peut jamais être compliqué que ce que je viens de vous dire.
Ismaël,
évoquez aussi les
Ismaël, mon boy. Ismaël.
Qui enseigne à l'université? Ce n'est pas vous. Soit en conclusion, nous pouvons dire en soi que vous, les professeurs, vous ne nous donnez pas ce que nous avons besoin. C'est ça notre échec. Deux, vous comprenez que la plupart des personnes aillent à l'université parce que leurs parents ont dit « allez faire la polytechnique, allez faire la médecine, allez faire la pharmacologie ». Vous vous imaginez que mon objectif était de faire l'épidémiologie. Toi, tu me dis d'aller faire la polytechnique. Je dois sortir avec quoi en tête et avec quelle conscience? Ce qu'il nous faut depuis 1960, les Belges nous avaient cochonné pour ne plus avoir autant de cadres universitaires.
Bien, merci.
Donc, je suis comme
merci Ismaël. D'accord. D'accord, merci beaucoup. On va donner la parole à Maître Omar Kigalo de Kinshasa. Maître, bonjour.
Bonjour Monsieur Jodier, bonjour au professeur, l'invité.
On vous écoute.
Merci Monsieur Jodier. Je crois que le professeur l'a dit, même si j'ai pris l'émission en cours. L'université a trois missions principales, former, faire de recherche pour la société, écrire pour cette société. Mais malheureusement, au Congo, comme vous l'avez décrit dans l'émission, on ne sent pas son apport. Ailleurs, lorsqu'il y a des problèmes, on part visiter l'université pour avoir des solutions. Voilà pourquoi on parle
comme les embouteillages de Kinshasa, la solution pouvait venir de l'université.
De l'université, nous avons, on a des experts en transport, on a des facultés, ça et là, on a des ingénieurs, polytechniciens, mais l'université ne sait pas résoudre. D'abord, je dis, moi, j'ai été écœuré, j'ai eu très mal. Lorsque je visite les classements mondiaux, aucune université congolaise ne figure parmi les 100 meilleures africaines. Je ne parle pas du monde. Parmi les 100 meilleures universités africaines, aucune université congolaise. C'est déjà un problème. La cause, la première, c'est une cause mentale, monsieur Jody. L'université n'est pas faite pour tout le monde. C'est un lieu de recherche. Elle est faite pour les chercheurs. Si on veut apprendre un métier, voyez un centre de formation professionnelle ou un institut supérieur. Mais si on va à l'université pour réfléchir pour la nation. Deuxième cause, c'est l'indifférence de l'État. L'État a la mission d'accompagner la recherche scientifique. En France, la recherche scientifique occupe la deuxième place du budget. Ici au Congo, la première place est occupée par les frais de fonctionnement des agents de l'État. Qu'est-ce que la recherche vient après. On a eu un professeur ici qui a inventé les médicaments de Covid. Aucun soutien du gouvernement congolais. C'est vrai, nous critiquons. Mais dans ces lots-là des paresseux, il y a des chercheurs qui font le travail et qui n'ont pas le soutien de l'État. Il y a autre chose, monsieur Jody, qui décourage. C'est la prostitution de l'élite congolaise. Vous avez un professeur d'université, de Sikroi, un docteur à thèse, qui a même deux thèses, qui, lorsqu'il est dans l'opposition, vous dit qu'on ne peut pas toucher la constitution. Si vous la touchez, c'est comme si vous violez votre propre mère. Lorsqu'il traverse au pouvoir, il dit on peut la changer. La population voit. Lorsqu'on vend son cerveau pour des intérêts politiques, on ne sait pas réfléchir pour la société. Ça aussi, il faut responsabiliser.
Et en plus, fond, Maître Omar, beaucoup de professeurs et des chercheurs se retrouvent comme directeurs de cabinet, conseillers dans les ministères à gauche à droite.
Il n'y a que M. Jody. Voilà pourquoi nous autres, nous allons être au-delà de la mêlée. Beaucoup de gens me demandent, mais Maître, pourquoi vous n'appartenez pas à un parti politique? J'ai dit, mais aucun parti politique congolais n'est sérieux. Quand vous venez là-bas, votre tête ne réfléchit plus. Vous dites oui à ce que le chef dit. La plupart des conseillers, la plupart des ministres, la plupart des directeurs sont des professeurs d'université. Mais ils sont dans un système dans lequel leur cerveau ne peut pas réfléchir. Vous êtes là vous-même, vous dites, la constitution est sacrée, on ne peut pas la toucher. Vous traversez, vous dites, on peut la toucher. Donc c'est un problème sérieux de l'élite qui se laisse transcender. Or, une élite doit être au-dessus de la mêlée. Il doit être indépendant d'esprit. Autre chose, monsieur Jody.
Mais Maître Omar, par exemple, regardez par exemple aux États-Unis, il semble que ceux qui ont lancé Microsoft Word, ils étaient encore étudiants, Bill Gates et les autres, et puis ceux qui ont créé les applications aujourd'hui, Facebook et tout, c'était des étudiants, tout est parti de l'université.
Même Zuckerberg, il était encore étudiant avec ses amis le 9 là, c'était des étudiants. Donc l'université, par essence, c'est un lieu de recherche. On doit y trouver des personnes sérieuses. On doit y avoir l'accompagnement de l'État. On a la fac comme la Polytechnique à l'UNIKIN, si vous y visitez. Mais ils enseignent des choses importantes. On a des problèmes de courant, on a des problèmes d'inondation. On a l'ISAU, on a l'IBTP, on a l'ISTA. On a des problèmes d'électricité. Donc le problème, c'est le faible financement de l'État qui ne veut pas soutenir. Vous parlez des États-Unis et ailleurs. Lorsqu'on découvre un chercheur, on les garde, on les protège, on les promeut. Ici, quand vous êtes chercheur et que vous voulez faire une promotion, on vous étouffe. Voilà les problèmes. Il y a un monsieur qui a trouvé la solution pour la pêche à Kikoli. Je crois que vous vous souvenez. Un jeune qui a présenté un bon projet. Au niveau du cabinet du Premier ministre, on a bloqué ça. On lui demande l'argent pour que son projet de recherche soit soutenu. Je crois que si vous avez une bonne souvenance, lorsque le président fait un tour à Kikoli, il a dit dans 8 clés à développement à Kikoli. C'était par rapport au projet de ce jeune. Un jeune agronome qui a fait des recherches et qui a démontré comment on peut gagner à part de la pêche de Kikoli. Il fait son projet. Il est même parti chez votre confrère Sango. Il vient déposer à la primature. Les conseillers des ministres, du Premier ministre lui demandent l'argent pour que son projet soit soutenu au Conseil des ministres. Aussi longtemps qu'on a un pays où on a une indifférence totale vis-à-vis de l'élite, on n'ira jamais loin.
Voilà. Alors, pour terminer,
recrutements même. Ou la sélection des professeurs.
D'accord.
Aujourd'hui, devient professeur qui veut.
Merci beaucoup, Maître Omar. D'accord. Merci beaucoup. Monsieur l'abbé Apollinaire Tshibaka, à vous la parole.
Bon, d'abord, je reviens à ce que, aux préoccupations d'Ismaël. La question sur les bâtiments, c'est très important. D'ailleurs, notre université officielle de Mbujimayi organise du 8 au 10 mai un colloque, justement, pour réfléchir sur les implications pour nous de pouvoir évoluer enfin dans des infrastructures universitaires. C'est-à-dire, pendant 32 ans, nos étudiants suivent des enseignements dans des hangars, d'églises, sous des arbres, ou je ne sais pas quoi. On ne forme pas un universitaire dans ces conditions-là. On ne forme pas un universitaire qui ne sait pas utiliser des toilettes modernes. Donc, ces infrastructures sont très importantes. Ça fait partie de l'esprit universitaire. Donc, alors, en plus de cela, il y a la question du personnel qu'il faut préparer. C'est-à-dire, les infrastructures sont très importantes et les hommes qui doivent mener des recherches, former dans ces infrastructures-là. Et là, la sélection doit être aussi rigoureuse. Quand nous sommes arrivés à l'université officielle de Mbujimayi, on a mis à la porte 94 assistants. C'est des personnes qui assuraient même des enseignements, alors qu'ils ne remplissaient aucune condition pour le faire. Alors, vous en avez d'autres. Vous avez quelqu'un qui est chef de travaux depuis 20 ans, qui n'a jamais écrit un seul article. Mais qu'est-ce qu'il fait à l'université?
Il
prépare sa thèse doctorat pendant 30 ans. Mais qu'est-ce qu'il fait à l'université? Donc, tout ça, c'est des problèmes structurels, institutionnels qu'il faut résoudre si on veut faire. Donc, notre université est malade. Il faut la soigner et en utilisant les manières fortes. Et là, c'est très important pour moi. Alors, on ne peut pas comparer quelqu'un qui est formé à l'UNEKIN ou à l'UNIDU ou à l'UEM à Mbujimayi ou à l'UNEKIS avec quelqu'un qui est formé aux États-Unis ou au Japon ou ailleurs. Ils sont formés dans des conditions particulières. Ici, quelqu'un peut aller monnayer les côtes avec un peu d'argent. Ailleurs, c'est pas des pratiques consacrées. Donc, on doit veiller à ça. Alors, on va dire on forme des polytechniciens ou on les forme au tableau. Je donne par exemple, nous, notre université a une faculté de médecine depuis 2005. C'est seulement en 2023 que nous avons eu des cliniques universitaires pour former. Donc, pendant près de 20 ans, ça va, près de 20 ans, on a formé des médecins au tableau. Hein, je me souviens toujours de Kimpese, il y a un prêtre là, le père Charles, qui a un institut. La devise, c'est la théorie sans la pratique est une escroquerie bien organisée. Et beaucoup de nos universités, en fait, organisent des formations escroqueries. Donc, notre université de manière forte.
Oui, Monsieur Labbé Tshibaka, on n'a plus beaucoup de temps. Je pense que le temps qui nous est imparti est presque terminé. On aura l'occasion de revenir dessus prochainement. Ça, ce n'est qu'une première émission. On aura le temps de développer et de parler de tous ces 7 péchés dont vous avez fait allusion, qui bloquent le développement, le fonctionnement de nos universités en République démocratique du Congo. Nous vous disons merci. Je rappelle que vous êtes monsieur l'abbé Apollinaire Tshibaka Tshikongo, recteur de l'université officielle de Mbujimayi. C'était un plaisir de vous recevoir aujourd'hui dans Okapi Service. Excellente journée et à la prochaine.
Merci beaucoup, Jody.